Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Amélie Perrault, Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon et Alia Tovin. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Emmanuel Morse-Duncan.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Après une semaine consacrée à l'économie du géant chinois, c'est le bras de fer entre la Chine et les États-Unis qui va nous intéresser aujourd'hui. Deux semaines après la venue des négociateurs chinois à Washington, ce sont cette fois les négociateurs américains qui se sont rendus à Pékin pour tenter d'enterrer la hache de guerre commerciale. L'échéance du 1er mars qui mettra un terme à la trêve annoncée en décembre se rapproche. Si d'ici là les deux pays ne trouvent pas d'accord, ce sont 200 milliards de dollars de biens chinois qui seront taxés à 25% par les États-Unis. Une décision qui interviendrait près d'un an après l'accélération de l'offensive douanière américaine contre la Chine, Pékin répondant coup par coup aux augmentations de droits de douane décidées par les États-Unis. Alors la Chine et les États-Unis peuvent-ils réussir à s'entendre dans ce qui ressemble à une bataille pour le leadership mondial ? Et l'Europe pourrait-elle être la grande gagnante de cet affrontement ? Voilà les questions qui vont nous occuper aujourd'hui. À 14h45, on retrouvera la bibliothèque idéale de l'écho. Aujourd'hui, Christophe Rameau nous fera découvrir « Sur l'État », un recueil des cours de Pierre Bourdieu au Collège de France. Trois invités autour de la table pour parler de ce duel au sommet entre Pékin et Washington. Bonjour Mathilde Lemoine.
Bonjour.
Vous êtes professeur de macroéconomie à Sciences Po et auteur avec Philippe Madiès et Thierry Madiès de cet ouvrage « Les grandes questions d'économie et de finances internationales » paru aux éditions de Beck. À vos côtés, François Godemant, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, conseiller pour l'Asie à l'Institut Montaigne et auteur avec Abigail Vasselier de « La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe » publié chez Odile Jacob. Et enfin Jean-Raphaël Chaponnière, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, chercheur associé à Asie 21, membre de l'Asia Centre et ancien ingénieur de recherche au CNRS. Un grand merci à tous les trois d'être avec nous aujourd'hui.
Les choses se passent bien avec la Chine. La Chine veut à tout prix conclure un accord. Mais je veux que ce soit un réel accord, pas juste un accord cosmétique qui fasse joli pendant un an. Nous avons l'opportunité de conclure un accord, un vrai accord avec la Chine. Nous n'avons jamais été dans cette position auparavant. Nous avons toujours été le vilain petit canard. La Chine ne nous a jamais donné 10 centimes. Ça a toujours été le contraire. Maintenant, ils payent des milliards de dollars par mois pour avoir le privilège de venir aux États-Unis et honnêtement prendre l'avantage sur notre pays. Nous allons voir ce qui va se passer. Mais à un moment donné, j'espère rencontrer le président Xi, que je respecte et que j'aime beaucoup, et négocier les points sur lesquels le groupe est incapable de s'entendre.
Voilà le président Donald Trump qui s'exprimait il y a trois jours. Les négociations ont donc repris hier à Pékin. Les émissaires du président américain ont estimé que les deux jours de discussion avaient été, je cite, « productives ». Mais aucun accord ne semble avoir été trouvé. Ces négociations, Mathilde Lemoine, s'annoncent particulièrement longues et laborieuses.
Je pense qu'elles sont effectivement structurelles. C'est-à-dire que même s'ils parviennent à s'entendre sur certains points particuliers sur lesquels on peut revenir, il y a vraiment un combat qui est dû à un changement de politique du président chinois. Le président chinois, au début de son mandat, de son premier mandat, s'était engagé à libéraliser l'économie chinoise et à faire en sorte que les entreprises d'État aient moins de poids dans l'économie chinoise. Et au moment de son discours de sa réélection en octobre 2017, il a complètement changé de politique, ce qui a été vécu comme une provocation par les Américains qui étaient déjà dubitatifs sur la libéralisation de l'économie chinoise, puisqu'il a dit qu'il renforcerait le poids des entreprises d'État et donc un problème de concurrence évident, mais aussi le poids des partis du Parti communiste dans les décisions de l'économie. Et il me semble que ce revirement du président chinois a été déterminant dans l'offensive américaine, dans un contexte où, il est vrai, les États-Unis avaient perdu le leadership en matière de croissance mondiale, puisque la croissance américaine ne représentait plus que 12% de la croissance mondiale, et aussi en termes de commerce mondial, puisque les exportations américaines ne représentent plus que 9% des exportations mondiales.
On va revenir sur tous ces aspects, mais d'abord, effectivement, sur ces tensions commerciales. Jean-Raphaël Chaponnière, elles vous paraissent structurelles malgré les négociations qui ont lieu actuellement ?
Oui, je pense qu'elles sont effectivement structurelles, mais
Moi, je verrais moins. Enfin, je pense pas que les États-Unis peuvent se suffire de promesses commerciales comme ça avait été d'abord fait en avril et puis vite abandonné, parce que je pense qu'il y a quand même une dimension assez stratégique sur tout ce qui est transfert de technologie, propriété intellectuelle, qui vont être
alors
d'une part extrêmement...
Alors, des promesses que la Chine a faites aux États-Unis.
Oui, enfin, qu'elle peut commencer à faire, qu'elle n'a pas encore faite, hein, mais qu'elle pourrait... Que si elle fait, ou si elle fait d'ailleurs en se contredisant, parce que on dit que les Chinois disent que les transferts de technologie, il y a une loi qui va légiférer pour contre leur interdiction, après avoir longtemps dit qu'ils n'avaient jamais été interdits. Donc bon, mais au-delà de ça, le problème de ce volet-là des négociations, les Américains ne pourront pas se contenter de promesses, et comme ils devront exiger des vérifications. Bon, qui demanderont quand même une certaine ingérence ou une ingérence internationale. On voit pas comment les Chinois peuvent accepter, ou en tout cas, ça prendra énormément de temps, énormément de promesses, quoi.
Ce que nous dit Jean-Raphaël Chaponnière, ouais, c'est que même si un accord a été trouvé, la question de la mise en œuvre sera ensuite une autre paire de manches, François Godemont.
Je crois qu'il y a eu un changement de paradigme, de philosophie aux États-Unis qui se limite pas à Trump et à son administration. Mmh. Trump avait annoncé la couleur entre son élection et son inauguration. Il avait dit qu'il serait particulièrement imprévisible pour la Chine. Convenant qu'il y arrive. Mais les démocrates partagent une bonne partie de cette analyse. On a abandonné 20 ans de philosophie sur la convergence, sur la plus ou moins rapide évolution vers l'économie de marché. Du côté chinois, je ne suis pas sûr que ce soit 2017 qui soit le tournant. En réalité, il y a un continuum, même avant Xi Jinping, mais surtout sur Xi Jinping. Et désormais, c'est clair qu'on va vers une forme de conflit permanent. Toute la question, c'est jusqu'à quel point et à qui est-ce que ça fait le plus de dégâts.
Alors, il y a des précédents. Les États-Unis avaient livré une guerre commerciale au Japon dans les années 80, et la Chine a fait de même plus récemment avec la Corée du Sud ou avec la Suède. Mais la différence, c'est qu'à chaque fois, Mathilde Lemoine, Pékin et Washington s'attaquaient à plus petit qu'eux. Là, on est face à un duel de géants.
Alors, on est effectivement face à un duel de géants, et l'autre argument très très important, c'est que la position américaine, alors pas en termes d'influence, mais en termes strictement de participation à la croissance mondiale et au commerce mondial, a considérablement changé en défaveur des États-Unis. Et je crois que c'est très important parce que, au-delà de la Chine, les États-Unis ont dû faire face à l'intégration européenne. Et quand on regarde de 99 à 2008, on voit que c'est l'Europe qui a vraiment contribué à l'accélération du commerce mondial. Et depuis 2009, quand on regarde les chiffres, on voit que l'Asie, donc la Chine et ses partenaires, ont expliqué 54% de la croissance des exportations mondiales. Et donc, les États-Unis sont dans un contexte, de mon point de vue, différent, du point de vue, encore une fois, strictement économique, et je ne parle pas juste de l'influence. Et ils doivent se demander comment reprendre la main en matière de croissance et de commerce mondial, puisqu'ils se font distancer aujourd'hui par l'Asie. Et je crois que c'est structurel et que ça n'est pas dû à la crise de 2008 qui a affaibli les États-Unis. Je pense que c'est plus profond.
Alors la question qui se pose aussi, c'est qui sont à la manœuvre dans ces négociations et qui peuvent permettre de faire avancer les discussions. François Godemont, côté américain, qui est à la manœuvre ?
Il y a plusieurs types de milieux autour du président Trump. Son négociateur commercial, Lighthizer, qui est là-bas aujourd'hui, qui était là-bas aujourd'hui, est peut-être en train de repartir alors qu'il est. C'est un vieux routier des négociations avec le Japon et un dur à cuire en termes de relations, en termes de négociations commerciales classiques. Mais derrière lui, il y a tout un ensemble qui voit beaucoup plus largement sur les problèmes de maîtrise technologique, d'innovation, de reprendre l'avantage. Et ensuite, il y a, je dirais, une troisième couche qui n'est pas nécessairement celle de Lighthizer, mais qui pèse idéologiquement et qui peut peser sur l'Europe aussi, c'est l'idée de la relocalisation industrielle. On a trop transféré d'industrie manufacturière, on a perdu beaucoup d'emplois. D'ailleurs, c'est une réflexion que les Européens pourraient se faire. Et il y a moyen, peut-être pour un coût modéré, de revenir. Cette histoire du surtaxe, vous savez, même 25% de droits de douane, c'est quoi ? C'est une super TVA sur les produits chinois.
Donc vous ne pensez pas que ça aurait un impact important sur l'économie chinoise?
Ça a un impact concurrentiel, mais l'économie chinoise vient de loin en matière d'avantages comparatifs, si vous voulez. Elle va
s'adapter,
elle l'a déjà fait. On parlera des chiffres actuellement qui sont très intéressants pour voir effectivement qui gagne, qui perd.
Et justement, côté américain, on a compris qui était derrière ces négociations, mais alors côté chinois, on a plutôt quelqu'un qu'on peut présenter comme un libéral.
Ben oui, là c'est très paradoxal, c'est que la Chine a mis en avant Liu He, qui est quand même membre du bureau politique, il n'est pas seulement économiste, mais qui est quand même par les économistes libéraux de sa profession, de la même profession que lui en Chine, classé dans ce camp libéral, qui d'ailleurs, en même temps, avec un autre leader national, lui responsable du Front Uni, fait un petit peu campagne dans les médias chinois pour plus de soutien à l'industrie privée. Donc, comme si Xi Jinping avait envoyé, si vous voulez, aux États-Unis, quelqu'un qui pourrait les attendrir un petit peu, mais dont les Américains sentent bien qu'ils ne représentent pas l'ensemble de la machine chinoise.
Alors justement, parlons des chiffres. Les États-Unis affichent leur meilleure croissance depuis 4 ans, alors que la Chine, elle, connaît un ralentissement de son économie. Dans quelle mesure est-ce que ces éléments entrent en ligne de compte dans ce rapport de force entre Pékin et Washington, Jean-Raphaël Chapagnon?
Enfin, d'abord, le ralentissement chinois, il faut le relativiser. Bon, on peut discuter sur les chiffres, hein, mais en tout cas, il faut le relativiser.
6,6% de croissance, c'est la plus basse depuis les années 90.
Oui, enfin bon, on s'en satisferait.
Oui. Évidemment, donc, mais relativement.
Le deuxième point, il est en rien lié à, pour le moment, hein, je veux dire, en rien lié donc aux tensions commerciales. Hein, peut-être vers
François
la fin
Gaulle
sur les.
Je pense pas grand-chose lié
parce qu'il est d'abord lié au désendettement, l'effort de désendettement qu'a fait la Chine. Donc ça, c'est le point principal. Hein. Et par contre, il me semble effectivement que vers les derniers chiffres, vers novembre-décembre, là, on avait aussi l'anticipation qu'on pouvait craindre sur janvier. Donc je pense que là, les tensions commerciales pouvaient mordre, et en particulier, elles peuvent mordre surtout sur les anticipations et sur les investissements que fera la Chine.
Toute la question.
Mais
qui
jusqu'à présent, les 10% ont été grossement évacués par l'érosion du yuan vis-à-vis du dollar. Donc c'est pas extrêmement important.
Donc ça a été compensé.
Peut-être juste un point pour revenir sur ce que vous avez dit sur le Japon. Bon, ce qu'il faut se rappeler, c'est que bon, si on se place les négociations de 85 au Japon, le Japon était un allié. C'est quand même, non seulement il était petit, mais c'était un allié. Et deuxièmement, ce qui s'est passé avec le Japon est quelque chose qui a instruit la Chine. C'est-à-dire que les Chinois ont toujours dit que l'Endaka, la révolution du yen, avait été la chose la plus dramatique qui a été faite au Japon, quoi. Donc je pense que ça a instruit aussi la position de la Chine.
Et alors toute la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que la Chine est aux abois? Est-ce qu'elle a besoin d'un accord? Qu'est-ce que vous en pensez, François Godemont?
L'impact commercial, il est surtout psychologique, c'est-à-dire que le ralentissement, effectivement, il y a la Chine est d'ailleurs astucieuse de faire du désentêtement, notamment des administrations locales, ou d'essayer de le faire s'il doit y avoir une guerre commerciale au couteau, parce que là, ça deviendra très dangereux. Mais il y a l'impact sur le consommateur, sur l'opinion chinoise, qui a joué un fort rôle dans le ralentissement de la consommation. Cela dit, les Chinois savent aussi appuyer sur l'accélérateur, ils viennent de le faire. Et si on regarde le bilan pour l'instant brutalement entre Chine et États-Unis, les avant-derniers mois de l'année, disons, la Chine a augmenté considérablement ses exportations vers les États-Unis. Tout le monde dit c'est préventif, c'est avant le choc. Et en janvier, là, les résultats viennent de tomber, les importations chinoises en provenance des États-Unis ont chuté brutalement de 42%. Alors, les mois de janvier sont jamais très significatifs en Chine. Il faut se méfier un petit peu des mois de janvier. Tous les statisticiens savent que c'est spécial. Mais je peux pas m'empêcher de penser que c'est un message adressé aux États-Unis. C'est, on est capable de ralentir considérablement nos achats. C'était juste avant le nouvel an, à des moments où il y aurait plutôt la tendance inverse.
Donc la vision d'une Chine fragile qui aurait besoin de cet accord, vous n'y croyez pas non plus, Mathilde Lemoine?
Non, puisque le ralentissement provient essentiellement de questions domestiques. Pour l'instant, on a vu une forte chute des investissements en infrastructures qui jouent un rôle extrêmement important encore en Chine sur les variations de la croissance, même si la consommation est importante. Et le gouvernement chinois a annoncé un plan de relance l'été derniers, qu'il complète au fur et à mesure des mois, pour justement pousser les collectivités locales à financer des investissements en infrastructure. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de signe tangible qui laisse penser que la Chine subit un impact majeur sur son économie de la guerre commerciale. Et parallèlement, et c'est là où ça peut créer des distorsions de concurrence avec les autres pays, la Chine a annoncé qu'elle aiderait les entreprises exportatrices et importatrices, je cite, qui ont des problèmes de trésorerie. Donc on voit bien aussi que la machine chinoise se met en place pour justement compenser d'abord le ralentissement intérieur, mais aussi pour aider les entreprises chinoises qui pourraient être victimes de cette guerre commerciale. Donc à ce stade, c'est plus l'incertitude du résultat de la négociation qui peut peser sur les perspectives d'investissement des entreprises que vraiment un impact massif sur le commerce mondial.
Pékin a en tout cas essayé d'apaiser Washington en promettant de plus grosses importations de biens américains, mais ces promesses ne semblent pas avoir suffi. C'est la preuve peut-être, Jean-Raphaël Chaponnière, que c'est finalement pas le déséquilibre des échanges qui pose problème, mais davantage les questions technologiques.
Pour moi, oui, c'est plutôt ça. Parce que enfin, les équipes des échanges, bon, peuvent apporter plus de soja. Enfin, c'est réglé, mais ça change strictement rien sur la situation commerciale des États-Unis. Ils importeront moins de Chine ou plus de Chine.
Mais ça d'ailleurs, acte juste le fait que les États-Unis consomment
le sol bilatéral n'a pas beaucoup de pertinence. Par contre, effectivement, pour moi, c'est tout autre chose qui est la crainte quand même qu'ont les États-Unis d'être rattrapés sur des technologies qui, au niveau stratégique, y compris défense, vont jouer un rôle important. Quoi.
Donc, vous dites qu'ils redoutent un choc Spoutnik.
Un choc Spoutnik, oui, ou un choc sur la 5G, enfin, c'est ça. Quoi.
Et alors, justement, les Américains veulent le respect des droits de propriété intellectuelle et aussi la possibilité d'exercer une activité en Chine sans partenaire chinois pour limiter les transferts de technologies. Ça fait partie aussi, Mathilde Lemoine, des revendications importantes des États-Unis.
Je pense que c'est capital. Et je compléterais ce qui vient d'être dit en mettant en avant aussi les demandes d'ouverture des marchés des services chinois par les Américains. Parce que on voit bien que c'est une demande récurrente qui date de l'entrée de la Chine à l'OMC d'ailleurs, puisque la Chine a été condamnée de multiples fois à ouvrir ses marchés de services. Alors on pense par exemple au marché financier ou marché de services juridiques. Et ce qui est très frappant, c'est que quand les Chinois veulent donner un signe d'ouverture, ils donnent des garanties dans le domaine financier. Par exemple, ils ont récemment permis à l'agence de notation Standard & Poor's de pouvoir ouvrir une filiale en Chine sans partenaire. Et ça, alors, ça peut sembler marginal, parce qu'évidemment, les négociations portent sur tout. Mais il me semble que c'est des choses concrètes que les Chinois peuvent donner aux Américains et qui permettraient, en tout cas à court terme, aux deux parties de sortir la tête haute, parce qu'il ne faut pas oublier que les États-Unis continuent d'avoir un excédent commercial dans le domaine des services. Et donc c'est là où ça peut leur apporter de la croissance et ils ont intérêt à développer ces services où ils restent encore, entre guillemets, c'est un des rares domaines où ils ont encore un leadership.
Et où justement ils craignent de perdre ce
leadership. Exactement.
Et donc
c'est
pour ça qu'ils sont en train de développer.
Et c'est pour ça que je pense que symboliquement, on voit bien les services financiers américains dominent le monde. Je veux dire, jusqu'à présent, ils ont le dollar, ce qui leur permet d'avoir une influence extrêmement forte. L'Europe est très en retard et la Chine, ses marchés financiers sont balbutiants. Donc je pense que c'est un enjeu très très puissant, très important pour les Américains.
François Goodman.
Effectivement, quand Clinton négociait l'entrée à l'OMC, son secrétaire au Trésor, c'était Robert Rubin, qui venait de Wall Street. Et Rubin avait essayé de prolonger les négociations pour obtenir les services financiers. C'est Clinton qui lui avait dit pouce. Aujourd'hui, la Chine a un léger déficit maintenant dans les services. Elle l'accepte. Et les Européens ne font pas si mal. Le grand risque avec les États-Unis, c'est que ce soit une ouverture, négociatrice au cas par cas, en réalité, de l'achat de partenaires, littéralement, pour les soutenir. Ils ont un peu perdu le lobby de Wall Street, ils ont un peu perdu le lobby des grands exportateurs. S'ils pouvaient le récupérer, ça leur ferait beaucoup de bien dans ces négociations commerciales. Et c'est là que les Européens doivent faire attention, d'ailleurs.
Et il y a deux points de vue qui semblent s'affronter. D'un côté, on peut imaginer que les Américains cherchent à tout prix à garder le leadership, mais il y a aussi un autre point de vue qui consiste à penser qu'il s'agirait finalement pour les États-Unis davantage d'un moyen de pression pour forcer la Chine à se convertir entièrement à l'économie de marché, ce en quoi ils ont été déçus pour le moment, Mathilde Lemoine. Mais est-ce qu'il y a encore cette volonté de pousser la Chine à se libéraliser davantage?
Oh, je pense qu'ils se font plus d'illusions. Et c'est pour ça qu'ils ont abandonné le, entre guillemets, le dialogue bilatéral pour une offensive commerciale beaucoup plus, j'allais dire virile, mais c'est peut-être pas le bon mot. Mais, et je crois, en tout cas, moi, les personnes que j'ai pu rencontrer de l'administration américaine étaient vraiment claires dans le fait que Xi Jinping avait démontré que ça n'était absolument plus un objectif. Et une autre avancée chinoise aussi en la matière qui montre que Xi Jinping, en tout cas, en est conscient, c'est que dans les priorités qui sont données aux collectivités locaux ou aux comités locaux, aux collectivités locales ou comités locaux, il n'y a plus plan Made in China 2025 qui soutenait un développement technologique offensif. Et donc on voit bien que Xi Jinping, c'est exactement aussi ce qui énerve et provoque les Américains, et qu'il y a une dimension effectivement économique, mais il y a aussi une dimension idéologique, je crois.
Et alors justement, est-ce que c'est plus la dimension économique ou plus la dimension idéologique qui ressort dans le fait que Xi Jinping veuille renforcer le rôle des entreprises publiques, selon le sinologue Jean-François Dufour? L'économie chinoise a besoin de fonctionner ainsi, car si jamais elle ne tordait pas les règles de l'économie de marché, elle s'effondrerait en quelques mois. Qu'est-ce que vous en pensez, François Godemont?
Il y a deux économies chinoises, une économie hybride, mais l'économie d'État, elle est directrice, et pour l'instant l'épargne, la finance reste largement contrôlé par l'économie d'État. C'est ce qui permet toutes sortes de déficits intérieurs qui sont compensés par l'avantage à l'extérieur.
Donc c'est plus
l'avantage
économique qu'idéologique.
C'est quand même plus économique qu'idéologique de la part des Chinois. Mais Xi Jinping a tout fait pour renforcer ça, avec quelque chose qui rejoint ce que dit Mathilde Lemoine. C'est que, il a avoué publiquement, si j'ose dire, ce qui se faisait avant, mais il a littéralement légiféré là-dessus, dans beaucoup de domaines. Par exemple, dire que les entreprises chinoises sont obligées de donner leurs données au gouvernement si celui-ci le demande, dans un système comme celui de la Chine, ça allait de soi. Pourquoi en faire une loi? Et il a rendu apparent des choses qui, la main invisible de l'État, si vous voulez, est devenue encore plus visible sous Xi Jinping. Donc c'est une cible.
Jean-Raphaël Chaponnière, l'aspect idéologique et économique.
Si on rapproche ça de l'affaire Huawei, il fait quand même, il y a hors de doute que Huawei peut être, peut travailler beaucoup, très bien avec l'État en connivence, je veux dire.
L'opérateur de téléphonie mobile, qui est en pleine crise justement avec les États-Unis. Et d'ailleurs, on peut se poser la question de cette proximité des deux agendas entre la crise de Huawei et les négociations commerciales.
Il y a eu des coïncidences. Je veux dire, Buenos Aires, en même moment où ils discutaient à Buenos Aires, la vice-présidente était arrêtée au Canada. L'acte d'accusation est arrivé le jour où les négociateurs chinois sont arrivés. Enfin, je veux dire, une coïncidence, ça va. Deux, ça fait un peu étonnant.
Est-ce que c'est un levier de négociation, finalement?
Il me semble qu'on ne peut pas retrouver l'affaire ZTE d'avril, où il y a eu d'abord la dénonciation, puis ensuite
Autre opérateur de téléphonie mobile qui a également subi les foudres du gouvernement américain.
Oui, puis il y a eu ce tweet de Trump disant 50 000 emplois perdus, ZTE, c'est impossible, c'est pas très bien. Donc, qui a étonné tout le monde.
Il parlait à ce moment-là d'emplois perdus en Chine.
Oui, c'est ça, d'emplois perdus en Chine. Et donc, pendant un certain temps, il y a eu une espèce de négociation. On abandonne les sanctions contre ZTE, contre les sanctions annoncées par la Chine. Mais je pense que là, ce serait impossible, compte tenu du changement politique et de la part de l'importance des démocrates maintenant. Peut-être que ça a été envisagé. Comme il était envisagé qu'il y ait une coïncidence entre les négociations sino-américaines et puis l'affaire nord-coréenne et le sommet.
Alors, on a parlé des conséquences sur l'économie chinoise de cette guerre commerciale, conséquences relatives, on l'a compris. Mais du côté des États-Unis, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et peut-être plus généralement, est-ce que ce ne sont pas les entreprises qui souffrent davantage, Mathilde Lemoine, de cette guerre commerciale, plus que les consommateurs à l'heure actuelle?
Alors effectivement, les entreprises en souffrent puisque les droits de douane s'appliquent pour l'instant principalement à des biens intermédiaires. Quand on regarde la proportion de biens qui sont touchés par la hausse des droits de douane, on voit que c'est à ce titre que les entreprises américaines en souffrent. Les agriculteurs aussi en souffrent beaucoup, mais le gouvernement américain a annoncé justement la possibilité pour l'administration de proposer des prêts à taux zéro pratiquement pour les agriculteurs américains. Mais je crois que le sujet n'est pas tout à fait là dans la mesure où, de toute façon, le commerce extérieur a pénalisé l'économie américaine, si on regarde en moyenne, depuis le début de la crise financière. C'est-à-dire que les entreprises américaines, de toute façon, ont un problème de compétitivité. Et la réforme fiscale qui a été mise en œuvre par les Républicains et Donald Trump a pour objet de rendre les entreprises américaines plus compétitives et donc de pouvoir supporter justement cette guerre commerciale. Alors, ça me paraît un peu simpliste comme façon de faire de l'économie, mais en tout cas, c'est aujourd'hui ce qui semble être l'ambition du président américain.
Et alors, face à cette guerre commerciale, quel doit être le rôle de l'Europe ? On en parle dans un instant.
We're stuck here where the many pains, where the letter tears, hearts once open and now closing down. They wanna get even, want the joker, one threat smearing all over me. No one to notice, recognize me, no call for an all, and can wash it all away. For here we must be, for here we must stay. Always I try, always to disappear, it's not enough to die. No, and we're stuck here, here where the many pains, where the letter tears, a bigger picture says we belong. All together, that's every song, this body of mine, this humanity is what I love. What I hate me, no escaping, no way out, no running away. For here we must be, for here we must stay. Always will I try, always to disappear, it's not enough to die, no. It's not enough to die.
Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
C'était War is Coming de Jeanne Haddad et nous sommes toujours avec Mathilde Lemoine, François Gaudemont et Jean-Raphaël Chaponnière pour parler de la guerre commerciale qui oppose Pékin à Washington. Alors dans ce conflit qui semble parti pour durer, comment est-ce que l'Europe peut tirer son épingle du jeu pour le Financial Times et pour de plus en plus d'analystes, cette guerre commerciale finalement, c'est l'Europe dans cette guerre commerciale qui pourrait être la grande gagnante de ce conflit. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathilde Lemoine ?
Alors moi, j'ai réalisé une étude il y a 6 mois sur le sujet qui qui conclut l'inverse, pour plusieurs raisons. Premièrement, l'Union européenne est le premier exportateur mondial. Si on prend les échanges aussi intra-Union européenne, ça représente 34% des exportations mondiales. Si on compare aux États-Unis, c'est 9% pour les États-Unis. Donc, de fait, le premier exportateur mondial a plus à perdre dans une compétition nationaliste que le dernier. Et il faut pas oublier que parallèlement à la guerre commerciale, les États-Unis ont accru la compétitivité de leur entreprise en baissant massivement les impôts et que les entreprises chinoises, pour compenser la hausse des droits de douane, sont subventionnées ou en tout cas ont des crédits d'impôts pour les aider à supporter cette guerre commerciale. Donc les entreprises européennes se retrouvent face à un accroissement de la compétitivité de leurs grands partenaires commerciaux. Ça, c'est le premier argument.
Alors, quels sont les arguments de ceux qui disent que justement l'Europe pourrait sortir gagnante?
Exact. Alors, juste fini mon deuxième grand argument, c'est que un des enjeux américains, c'est justement de pouvoir exporter plus de services, on en a parlé, services financiers, services juridiques, en Chine. Et l'Union européenne n'est pas organisée pour tirer profit d'éventuellement une ouverture des marchés chinois, parce que nous n'avons pas de marché unique des services, en tout cas il est incomplet, et il est très difficile pour la Commission européenne qui négocie pour nous de savoir quoi négocier. Donc ça, je pense que c'est aussi un élément important. Alors je ne parle pas à court terme, hein, mais sur le moyen terme, si les États-Unis obtenaient ce qu'ils demandaient, l'Europe aurait du mal à se positionner. Alors ceux qui considèrent que... et en particulier la CNUSED qui vient de sortir une étude pour dire que l'Union européenne pourrait être la grande gagnante.
La CNUSED, vous nous rappelez ?
Donc c'est l'organisation de commerce international
des Nations Unies,
voilà, chercher l'acronyme français, et qui vient de sortir un rapport pour dire que l'Union européenne serait le premier bénéficiaire, parce que on oublie souvent que il peut y avoir quand on change les normes ou les droits de douane des détournements de flux de commerce. En gros, les États-Unis ne vont plus acheter de produits chinois parce qu'il y a des droits de douane supplémentaires et vont les faire venir de l'Union européenne. Voilà. Et qu'en matière de commerce global, ça changera pas grand-chose, il y aura pas de chute. Mais en tout cas, les uns et les autres vont plus avoir les mêmes flux de commerce vis-à-vis des uns et des autres.
Mais ça, vous n'y croyez pas ?
Alors, je pense pas, parce que justement, en tout cas, c'était très difficile de connaître les hypothèses de cette étude. Mais malgré tout, il ne semble pas qu'ils aient intégré l'amélioration de la compétitivité des entreprises américaines et l'accroissement des subventions chinoises. Et donc, si c'est toute chose égale par ailleurs, je suis dubitatif, parce que, encore une fois, les entreprises européennes sont dans une position de compétitivité dégradée.
François Godemont.
D'abord, la peur panique de Bruxelles, et c'est assez logique, c'est que l'affrontement avec Donald Trump se solde par un accord, je dirais, de marchandage. C'est-à-dire que les Chinois disent « bon, on va acheter ceci, cela, cela, cela à vous et pas à d'autres, et on va permettre à cette entreprise des conditions dérogatoires. »
Et donc l'Europe serait complètement exclue.
Catastrophique pour les autres. Nous n'avons pas d'armes lourdes, si j'ose dire, dans le domaine du commerce international. Aucune n'est aussi lourde que ce que peuvent faire les États-Unis. Donc ça, c'est l'obsession à Bruxelles. Dans la réalité, comme a-t-il de moi, je suis partagé. Je pense qu'on perd autant, mais pas plus qu'autrefois, depuis 9 mois. Et que certains d'entre nous gagnent beaucoup. L'Allemagne, il y a 2 mois, avait presque honte de devoir annoncer à l'avance les avantages de l'avancée de sa balance commerciale avec la Chine, par exemple. D'autres, au contraire, la baisse du yuan et le report des exportations. Prenez le mois de janvier, 18% de hausse des exportations chinoises vers l'Europe, 8 ou 9% de hausse des exportations européennes vers la Chine, ce qui est pas si mal. Ouais, mais globalement, le déséquilibre continue. Donc, dans un deuxième temps, est-ce que l'Europe est capable de bénéficier de l'ouverture ? Comme Mathilde Moine, je pense que l'immense problème, c'est l'absence de champions. Des banques exsangues, pas de grandes entreprises de services financiers, pas de... Quand on voit Nokia, Ericsson, à chaque fois on dit qu'ils devraient concurrencer Huawei. Oui, mais ils ne sont pas tout à fait prêts, ça va prendre plus de temps, etc. On a un problème dramatique qui est notre problème.
L'Europe n'arrive pas à organiser la riposte, selon vous, François Godemont. Vous avez écrit ce livre justement pour expliquer en quoi, selon vous, l'Europe devrait être plus ferme vis-à-vis de la Chine. Alors, par quoi est-ce que cela passerait, selon vous, François Godemont ?
La commission Juncker a fait beaucoup mieux que ses prédécesseurs. majeur. Hein. On a adopté des mesures de filtrage des investissements que le Parlement vient d'endosser. Alors, c'est un filtrage un peu à la carte. Les États membres ne veulent pas renoncer à leur pouvoir de décision pour toutes sortes de raisons, mais quand même, on va un peu plus dans cette direction. Il y a les instruments de défense commerciaux. Le grand thème maintenant, c'est la réforme des dispositions sur la concurrence. Parce qu'assez bizarrement, elles ont été faites surtout pour s'appliquer aux Européens entre Européens. Donc si vous êtes non-Européen, opérant sur le marché européen, pour dire les choses simplement, vous avez moins de problèmes avec la loi sur la concurrence. Donc il faut changer ça. Et puis, beaucoup plus fondamentalement, le grand débat, une politique industrielle, du soutien à l'innovation, à la technologie, avec ceux qui disent « Ouais, mais attention, c'est le marché qui doit arbitrer, les États sont très mauvais, etc. » C'est un immense débat qui revient sur la place publique.
Le grand sujet entre la Chine et l'Europe, c'est la question de la non-réciprocité. C'est le principal problème. L'Europe ne peut pas faire en Chine ce que la Chine fait en Europe. Et c'est là-dessus aussi qu'il faudrait, selon vous, des négociations.
C'est le problème de tout le monde. Les États-Unis l'admettent aussi. Et dès 2001, quand on a signé l'OMC, je me rappelle de colloques où tous les économistes chantaient en chœur la convergence, sans voir qu'il y avait aucun terme mis pour le statut de la Chine comme économie en voie de développement, donc avec un avantage structurel. Et légalement, la Chine a raison. On n'a pas dit qu'il y a un critère pour que ça s'arrête. Donc pourquoi ça s'arrêterait ?
Donc il faut changer les traités ?
Il faut revoir les traités en disant qu'ils doivent s'adapter, évidemment, à un stade de développement. La Chine, aujourd'hui, a près de 10 000 dollars de revenus par habitant pour 1,3 milliard, 1,4 milliard d'habitants. Ce n'est pas la Chine de 2001.
Jean-Raphaël Chaponnière.
Oui, enfin, peut-être pour revenir sur l'Europe, il y a aussi un impact de détournement de trafic vers l'Europe, le soja par exemple américain, on a aussi ça qui se passe. Sur les États-Unis... Chine. Bon, l'Europe est un peu dans la coulisse. Enfin, je pense que si les États-Unis obtiennent quelque chose, l'Europe sera assez contente, même si elle veut pas se mettre en avant. Bon, je sais pas, il y avait la position du milieu d'affaires allemand qui était quand même assez impressionnante, enfin, en négatif sur la Chine, quoi.
Donc, je pense que. En jugement,
quoi. En disant, c'est à la fois un partenaire, mais un adversaire
donc
systémique.
Donc l'Europe commence à se montrer plus ferme.
Non, mais je pense qu'en tout cas, elle peut se mettre en coulisses de la position chinoise, position américaine.
Se mettre en coulisses ne suffit pas. Le risque, c'est d'être marginalisé, tout simplement. Et c'est vrai qu'on peut être marginalisé de deux manières. On peut être marginalisé parce que le conflit est tellement important que la Chine ne regarde que vers les États-Unis. C'est un peu le cas maintenant en Europe, c'est les grands discours sur le multilatéralisme, mais dans le fond, pas de changement. Ou bien, au contraire, s'il y a un accord de marchands de bestiaux, si j'ose dire, nous manquons d'arguments et nous sommes de facto dans un monde de grande puissance qui se moque pas mal de l'OMC.
Ce qu'on voit en tout cas, c'est que la Chine a tout intérêt à jouer la division en Europe et cela passe aussi par toute une activité de lobbying, Mathilde Lemoine.
Vous avez complètement raison et aussi les États-Unis. C'est là où on pourrait être le grand perdant. C'est qu'il y a un intérêt convergent de la Chine et des États-Unis à jouer la division européenne. Et si je résume alors de façon un peu provocatrice, on voit bien que les Américains jouent voiture contre agriculture, c'est-à-dire menace d'accroître des droits de douane sur les exportations européennes de voitures vers les États-Unis, sachant que l'Allemagne, c'est à peu près 50% des exportations de voitures européennes vers les États-Unis. Et en échange, ils vont demander à ce que l'Union européenne accueille plus de produits agricoles américains. Et là, ça peut créer des tensions dans le couple franco-allemand qui peuvent être compliquées à gérer. Et je crois que c'est un vrai risque aussi pour l'Europe avant des élections parlementaires européennes. Il me semble que c'est très dangereux.
Et en même temps, ce que vous dites, François Gaudement, c'est que cette stratégie de division de la Chine en Europe, elle n'est pas si efficace que cela pour le moment. Vous expliquez qu'en réalité, il y a un certain nombre de mécanismes qui se mettent en place. Alors, vous avez parlé du système de filtrage des investissements à l'échelle européenne, mais il y a d'autres mécanismes.
Oh non, c'est surtout que j'ai du mal à comprendre comment la Chine peut accepter de perdre tant d'argent au Venezuela ou en Angola ou dans un certain nombre de pays où elle a prêté à livre ouvert et comment en Europe centrale et de l'Est où elle développait une initiative diplomatique pour clairement diviser l'Union européenne, elle a finalement l'argent a peu suivi les paroles et les Européens de l'Est sont fondés à se dire non seulement les fonds structurels européens sont bien plus importants. Mais en plus, la Chine n'investit pas, elle investit en Allemagne. C'est pas la même chose. Mm-hmm. Et elle prête et à des conditions qui ne nous intéressent pas.
Et alors pourquoi cela? Pourquoi elle n'y a pas vu son intérêt en Europe de l'Est?
Je pense qu'on surestime. D'abord, quand on est européen, il faut se rappeler que l'Europe, ça compte pour la Chine, mais pas immensément. Il y a un vrai problème, c'est qu'on a du mal à accepter l'idée qu'on ne soit pas l'acteur le plus important de la planète sur le plan moral, bilatéral, multilatéral, etc. Les Chinois,
il y a l'Afrique,
il y a le Moyen-Orient, il y a l'Amérique latine. Et puis oui, il y a l'Europe centrale et l'Est, c'est intéressant, il faut discuter avec les Russes aussi. Ils ne font pas forcément tous les efforts et ils n'ont pas forcément tous les moyens. Et puis pour faire du business en Europe, il faut s'adapter à cet univers de règles et de normes européenne, c'est peut-être un peu plus difficile pour des entreprises chinoises qui, disons, agit dans un environnement plus cow-boy.
Alors, il y a des conséquences sur un certain nombre d'économies de cette guerre commerciale, et notamment sur les économies asiatiques. Jean-Raphaël Chaponnière, vous avez écrit tout un article pour montrer l'impact que cette guerre commerciale avait sur la région.
Pour le moment, en fait, ça profite plutôt, mais pour le moment, ça profite plutôt à tous les pays qui sont qui ont un revenu inférieur à la Chine, donc regardez 2018, c'est le Cambodge, c'est le Laos. Vous avez des taux de croissance d'exportation vers les États-Unis qui sont considérables. Un des pays qui gagne le plus, c'est le Vietnam, en termes de délocalisation qui arrive. Et il gagne tellement qu'il peut arriver sous les foudres du Trésor américain, puisqu'il a un excédent commercial relativement important. À l'évidence, il manipule sa monnaie, sauf qu'il n'a pas encore un excédent courant suffisant pour tomber sous la ligne du trésor, quoi.
Mais une région qui bénéficie plutôt des tensions commerciales.
Mais pour le moment, si jamais il y avait une guerre qui s'aggravait, le gâteau diminuerait, donc tout le monde en perdrait. Mais à court terme, moyen terme, ça accélère quand même tout le courant de l'après-Chine, des investissements chinois qui quittent la Chine, non pas pour aller en Afrique, mais pour aller à côté, quoi. Myanmar est un des pays qui progresse le plus rapidement aussi.
Mathilde Lemoine, sur les avantages que peuvent retirer la région sud-asiatique, sud-est asiatique.
Je partage évidemment tout à fait ce que dit Jean-Raphaël Chaponnière, puisqu'il étudie tout ça de façon très minutieuse. On a vu, et c'est pour ça que je suis aussi dubitatif sur ce rapport de la CNUSED, parce que on a vu qu'il y avait une hausse des droits de douane sur les crevettes chinoises, et que tout à fait parallèlement, les exportations de crevettes vietnamiennes vers les États-Unis avaient fortement augmenté. Donc, il me semble qu'aujourd'hui, il y a des négociations, en tout cas, entre la Chine et ses partenaires, puisque une des ambitions de la Chine, c'est aussi de renforcer l'intégration régionale, il ne faut pas l'oublier, et que ce détournement de trafic pourrait aussi bénéficier aux pays du sud-est asiatique, plus que, dans certaines mesures, qu'aux pays européens, compte tenu du type d'importation taxée vers d'importation américaine taxée. Donc je crois que, effectivement, c'est un élément très important, et il y a aussi le gouvernement chinois a baissé les droits de douane sur les importations venant d'Asie de produits alimentaires au moment même où les Américains ont augmenté leurs droits de douane sur les produits chinois. Donc on voit bien que les Chinois ont aussi une stratégie régionale extrêmement offensive et qu'il faut l'intégrer dans notre analyse de la guerre commerciale sino-américaine.
Alors on arrive presque au terme de cette émission, mais plus largement je voudrais vous demander, Mathilde Lemoine, les conséquences que ces tensions pourraient avoir sur l'économie mondiale. Si les États-Unis mettaient leur menace à exécution et relever bel et bien les droits de douane de 10 à 25% sur un certain nombre de produits chinois, est-ce que cela pourrait entraîner un certain enrayement du commerce mondial ?
Alors, dans un premier temps, c'est toujours l'idée qu'on s'en fait, puisque les investisseurs vont craindre que ça crée une situation attentiste des investisseurs, des entrepreneurs et aussi des ménages. En clair, une baisse de l'investissement, une hausse du taux d'épargne des ménages. Et donc, ça pourrait enrayer la croissance de l'économie mondiale. Dans un premier temps, je crois que c'est ça que craindraient les investisseurs internationaux. Ensuite, encore une fois, l'impact sur l'économie mondiale réelle, sur le commerce mondial réel, ça dépend de ces détournements de flux de commerce, mais à court terme, on pourrait avoir un effet légèrement dépressif sur le commerce sino-américain, mais ça se traduirait effectivement par une grande incertitude sur les perspectives de croissance mondiale, et ça peut entraîner un cercle vicieux.
Jean-Raphaël Chaponnière.
Si on regarde peut-être plus en amont, en fait, ça fait maintenant depuis... on n'a pas retrouvé le poids du commerce mondial dans le PIB mondial de 2008. Et on l'a toujours pas retrouvé. Et on pourrait quand même, peut-être qu'on annonce non pas la fin de la mondialisation, mais sans doute une mutation. de la mondialisation. Alors c'est en partie lié à ce qui se passe, c'est en partie lié à la Chine, à mesure où elle remonte des filières. Enfin, on a dit effectivement qu'elle exporte beaucoup en Asie, mais aussi elle importe moins, par exemple, de Thaïlande. Elle fabrique chez elle des choses qu'elle importait en remontant les filières, en intégrant des chaînes globales de valeur. Mais on pourrait avoir effectivement une inflexion peut-être plus poussée de la mondialisation, et vers plutôt moins de marchandises, mais beaucoup plus de services.
Cette crise, elle traduit, François Godemant, je vous laisse le mot de la fin, cette forme de relocalisation à laquelle on peut assister aujourd'hui, à ce recul de la mondialisation.
Le grand débat aujourd'hui, à la fois sur les technologies, sur les investissements, sur l'économie numérique, c'est est-ce qu'on va poursuivre l'ambition d'avoir un système global, ou est-ce qu'on va vers deux ou trois systèmes plus ou moins fractionnés pour toutes sortes de raisons? Et le jury est là. En ce qui concerne l'influence de la Chine, je dirais pendant 20 ans, on nous a expliqué que c'était la locomotive qui tirait le monde. En réalité, c'était la fusée qui était en avance du reste du monde. Quand vous avez 9 ou 10% d'excédent commercial, c'est plutôt les autres qui vous tirent que vous qui tirez les autres. Aujourd'hui, paradoxalement, elle est presque à l'étal, presque à l'équilibre. Je pense que s'il y avait une chute brutale en Chine, il y aurait effectivement des effets de substitution. Ce serait moins dramatique qu'on ne l'a prédit il y a quelques années.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Mathilde Lemoine, François Godemant, Jean-Raphaël Chaponnière. François Godemant, je rappelle votre livre « La Chine à nos portes, une stratégie pour l'Europe » publié chez Odile Jacob. Un grand merci à tous les trois. Il est 14h45 sur France Culture et c'est l'heure de retrouver la bibliothèque idéale de l'écho. Le livre qui rejoint notre bibliothèque aujourd'hui est celui d'un sociologue. « Sur l'État » rassemble les cours donnés par Pierre Bourdieu au Collège de France entre 1989 et 1992. 700 pages pour comprendre comment l'État agit sur l'ordre social. Un ouvrage publié en 2012, soit 10 ans après la mort de celui qui inventa les concepts de capital culturel et de violence symbolique. Et c'est Christophe Rameau qui va nous en parler. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, chercheur au Centre d'économie de l'Université Paris-Sorbonne et membre des économistes atterrés. Alors d'abord, dans quel contexte Pierre Bourdieu donne-t-il ses cours au Collège de France à la fin des années 80? Il est alors plutôt au terme de sa carrière?
Oui, il est au terme de sa carrière. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il indique lui-même dans ses cours qu'en fait jusqu'à présent, il se refusait à prononcer le mot même d'État en quelque sorte. Il avait étudié l'État, il dit qu'il faut toujours avoir une attitude extrêmement soupçonneuse vis-à-vis de l'État. Il a étudié l'État par des petits bouts, l'école, la distribution des titres, la noblesse d'État. Mais voilà. Mais là, il s'attaque, en tant que tel, il fait un cours sur l'État. Donc, il attaque le morceau de front.
Et cet ouvrage est une réflexion justement sur cette difficulté à penser l'État en tant qu'objet de recherche et comme construction sociale. Et pour remédier à ce que Pierre Bourdieu appelle l'amnésie de la jeunesse de l'État, il se lance dans une étude sur le temps long qui remonte au Moyen-Âge et dans laquelle il se demande comment cette pensée d'État s'est historiquement constituée. Quelles sont les réponses qu'il apporte, Christophe Rameau ?
D'abord, il critique la vision un peu traditionnelle pendant très longtemps, enfin au moins dans chez les critiques qui avaient de l'État. Donc on rabat l'État simplement. Alors côté marxiste, hein, il a des propos extrêmement virulents hein, vis-à-vis des marxistes sur le thème. Ils ne parviennent pas à penser l'État comme un champ spécifique. Ils rabattent l'État comme une sorte de marionnette, une superstructure au service de la reproduction du capital constitué dans la sphère économique. Or la thèse de Bourdieu, là on retrouve cette avant antérieure, c'est de dire que l'État c'est un champ spécifique à part entière. Hein, il dit l'État c'est d'abord du capital symbolique, mais ce capital symbolique en fait, il couvre aussi tous les autres sortes de capitaux monétaires, économiques, etc. Bon, et donc le point de vue que va soutenir Bourdieu et qui est assez nouveau dans son parcours, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il dit on m'a souvent lu comme quelqu'un qui déconstruisait en quelque sorte l'État comme un instrument de domination au service notamment de ceux qui ont le pouvoir sur l'État, la noblesse d'État. Très bien, ça il n'y a rien de nouveau. Mais en fait, ce qu'il souligne dans ce livre, c'est que l'État, c'est un Janus. Et donc, il a ces fameuses formules où il dit, bien sûr que la noblesse d'État, ceux qui ont le pouvoir sur l'État, doivent invoquer l'universel pour asseoir leur pouvoir. L'universel, c'est une notion qui, dans la bouche de Bourdieu, en fait, remplace celle d'intérêt général, qu'il a énormément de mal à prononcer. Mais ce qu'il souligne, c'est que non seulement la noblesse d'État est obligée dans les États modernes d'invoquer l'universel pour asseoir son pouvoir, mais en fait, Et c'est ça, la vraie nouveauté. En fait, elle fait réellement progresser l'universel.
Ce que dit Pierre Bourdieu, c'est que il y a une lutte interne permanente entre l'état de la main droite et l'état de la main gauche constituant l'état social. Et c'est cette partie-là qui vous a intéressé, puisque vous dites qu'on réussit encore assez peu à comprendre et à théoriser l'état social.
Oui, tout à fait. Mais il faut savoir que cette évocation de la main gauche, qu'on retrouve déjà dans La misère du monde, en fait, elle n'est pas théorisée dans ce livre. Hein, c'est à la fin de son ouvrage, à la fin de ses trois cours, en fait, si vous voulez, je durcis un peu le trait. Mais en fait, à la fin de ces trois cours, Bourdieu dit, voilà, la noblesse d'État, en fait, ce qu'on peut voir sur l'État, l'État fait réellement progresser l'universel. L'État a à voir avec l'universel, pas simplement du point de vue de l'invocation pour asseoir le pouvoir, de ce qu'on peut voir sur l'État, mais il fait, ce faisant, réellement progresser l'universel, l'intérêt général, en fait. Bon, alors je dis un mot sur l'intérêt général. Hein. Bourdieu a eu beaucoup de mal à prononcer le mot État pendant toute sa vie. Le mot intérêt général, il y arrivera quasiment pas. En fait, il le dit, voilà, mais il préfère le mot universel qui résonne.
Pour quelle raison, fait. Alors, utilise-t-il l'universel pour parler de l'intérêt général?
Parce que je pense qu'il reste encore, finalement, prisonnier. C'est à la fin de son parcours, en quelque sorte, qu'il reconnaît que, finalement, cette notion d'intérêt général, cette notion d'universel, elle a finalement du sens, y compris dans un sens d'émancipation, dans un sens progressiste. Bourdieu insiste toujours sur le fait que l'État est au service de la reproduction, etc. Donc il y a les deux volets dans sa thèse, mais là, à la fin de ses cours, à chaque fois, il dit l'État n'a pas simplement un volet répressif, un volet de domination, il a un volet d'émancipation. Alors la question qu'on se pose, bien entendu, c'est en quoi ça s'incarne? Qu'est-ce que ça signifie? Et donc là, il évoque effectivement la main gauche de l'État. Mais il l'évoque à la fin. Et à chaque fois, il dit, nous creuserons cela l'année prochaine.
Il va mettre
trois
beaucoup
ans
de temps
suite.
À répondre. Oui.
Mais en fait, voilà, donc il évoque les pistes. Et en fait, il dit l'essentiel. Il dit la main gauche de l'État. Alors d'ailleurs, l'expression main gauche, on peut la contester, compte tenu de l'histoire. On peut juger que De Gaulle a joué un rôle, d'une certaine façon, dans l'établissement de l'État social. Mais enfin, passons, c'est anecdotique. On comprend ce qu'il veut dire. Mais c'est à la fin, à chaque fois de ses cours, qui dit finalement, ce volet progressiste de l'État, c'est la main gauche, c'est la protection sociale, ce sont les services publics qu'il convient de défendre.
Et à quel moment, justement, répond-il à cette question? C'est-à-dire, comment est-ce que l'État peut faire avancer l'intérêt général?
Si vous voulez, il distingue l'État d'ancien régime et l'État moderne. Bon, très bien. Et il nous dit, dans l'État d'ancien régime, pour faire très 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 court, ceux qui ont le pouvoir sur l'État, le roi peut dire l'État c'est moi. Mais il dit dans l'État moderne, ceux qui ont le pouvoir dans l'État moderne, les dirigeants de l'État, sont obligés d'invoquer l'universel, c'est-à-dire sont obligés d'invoquer l'intérêt général, ne serait-ce que parce qu'ils sont soumis aux élections, de façon à asseoir le pouvoir. Mais là, quand Bourdieu dit ça, il ne fait que rappeler ce qu'il a dit précédemment. Mais la nouveauté, voilà, c'est de dire qu'en fait, ce faisant, y compris cette noblesse d'État, est amenée, y compris en quelque sorte malgré elle, à faire réellement progresser l'universel. Par contre, Bourdieu n'ira pas plus loin dans qu'est-ce que ça signifie précisément ce côté émancipateur de l'État social, avec la protection sociale, les services publics, le droit du travail.
C'est ce qui explique peut-être que dès les années 90, Pierre Bourdieu déplore le retrait de l'État et le recul de l'idée de service public, qui sont évidemment des questions toujours d'actualité.
Tout à fait, c'est à ce moment-là, y compris qu'il opère sa bascule dans le champ de l'engagement. Bourdieu a des phrases extrêmement dures contre les postures critiques. Il dit on réduit souvent la sociologie à la critique. Sous-entendu, il dit attention les demi-savants, les demi-sociologues qui réduisent la sociologie à la lecture du Canard enchaîné avec des ricanements. Sous-entendu, quand on invoque l'intérêt général, etc., en fait, il y a toujours derrière tout ça des dominations à l'œuvre. Il dit bien sûr que tout ça existe. Mais quand on dit ça, on n'a fait que la moitié du chemin. Donc il a des phrases extrêmement vives sur la réduction de la sociologie à la critique. Je trouve ça intéressant.
Et ce qui est intéressant également, c'est qu'à partir de ce moment-là, Pierre Bourdieu, qui récuse pourtant le terme d'intellectuel engagé, va véritablement s'engager politiquement, et notamment dans les grèves de décembre 95, au moment du mouvement des chômeurs de l'hiver 97. Il y a vraiment une bascule importante qui s'opère.
Il y a une phrase, un paragraphe assez dur sur le gauchisme, qui se contente d'invoquer répression, anti-répression dans ce livre sur l'État. Il n'a pas d'engagement partisan, mais enfin c'est vrai que de mon point de vue, et je trouve que c'est tout à fait à son son honneur, effectivement, sur une question centrale où il y a un débat intellectuel très important en 1995, où le camp intellectuel se fracture en quelque sorte, bah, il fait le choix, effectivement, de s'engager dans le soutien à ceux qui défendent l'État social.
On a parlé de l'État comme source d'émancipation, qui est peut-être cette deuxième phase de Bourdieu. Revenons à la première phase. Pierre Bourdieu qui pense l'État dans un premier temps comme un produit de légitimation et une source de légitimité. Est-ce que c'est en cela, Christophe Rameau, que l'État reproduit l'ordre social?
La notion d'universel, elle est très très importante. Hein. C'est-à-dire que il dit en fait, pour penser l'État, y compris non seulement pour penser l'État, mais la genèse, hein, y compris de l'État, bah, il faut comprendre que les sociétés se différenciant, il y a besoin à un moment donné de prendre en charge une part du tout qui n'est pas réductible au jeu des partis, hein, contre la pensée libérale, hein, ou libertaire d'ailleurs. Bah, acceptons l'idée qu'on vive dans des sociétés d'individus, le mot société pèse de tout son poids. Hein, c'est-à-dire que voilà, il y a une part de tout qui excède, mais dans tous les cas, il y a besoin d'institutions, il y a besoin d'un État, hein, à l'échelle d'une société prise globalement, pour prendre en charge cette part du tout qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers. C'est ça le processus d'universalisation qui est lié au processus de différenciation qu'évoque Pierre Bourdieu. Bourdieu, à la fois, il ne présente pas une théorie de l'État social, mais à la fois, il met le doigt sur l'essentiel, de mon point de vue, qui est l'idée, effectivement, que la justification ultime de l'État social, c'est l'idée que dans nos économies, dans l'économie moderne, on a besoin de marché, de concurrence, bien sûr, mais il y a une part de l'économie, il y a une part de la macroéconomie ne se réduit pas à la microéconomie, il y a des domaines entiers d'activité qui sont essentiels, qui renvoient au fait que, justement, le tout n'est pas réductible au jeu des partis, donc tout ce qui concerne le plein emploi, les services publics, la protection sociale, hein, qui mettent en jeu, justement, cette part de l'intérêt général qui n'est pas réductible au jeu des intérêts particuliers, eh bien, il y a besoin d'intervention publique.
Vous donnez, Christophe Rameau, une définition de justement de cet état social. Ce que vous dites, c'est que finalement, on ne le comprend pas vraiment. Comment est-ce que vous le définiriez en quelques mots?
Moi, je dis, voilà, l'état social, on réduit souvent la protection sociale. Ça, c'est une erreur parce qu'on le réduit à un domaine très important. L'état social, c'est quatre piliers. Voilà, la protection sociale, la régulation des rapports de travail, donc notamment le droit du travail, les services publics, et puis toutes les politiques macroéconomiques, politiques de partage des revenus, politiques industrielles, politiques budgétaires, monétaires. Quand on met tout ça bout à bout, on voit qu'on a affaire à quelque chose d'absolument colossal. Nous ne vivons pas dans des économies de marché. Nous vivons dans des économies avec du marché, mais l'intervention publique qui joue un rôle majeur. Et illustration du fait que nous ne le maîtrisons mal, bah, tous ces débats hallucinants sur la dépense publique.
Comment on peut expliquer justement cet entremêlement, une autre forme d'imbrication, cette fois entre l'État et ses représentants, Christophe Rameau?
Alors, si vous voulez, le point de vue là de Bourdieu, c'est qu'il met l'accent sur le capital symbolique. Hein. Le capital symbolique, c'est-à-dire les éléments de langage, hein, notamment. Donc c'est le capital quelque part le plus important, parce qu'en fait, on le retrouve y compris dans toutes les autres sortes de capitaux. Alors, il a quand même l'obsession de la genèse à chaque fois. Et on comprend, c'est-à-dire la genèse, c'est l'idée qu'on va voir les jeux d'acteurs qui, au départ, ont contribué à constituer tel ou tel service, tel ou tel appareil d'État, etc. Bon. Très bien, ça joue un rôle. Par exemple, sur l'État social, on sait que la loi de 1898 sur les accidents du travail est très importante, puisqu'elle introduit la notion de responsabilité sociale. On rompt avec le libéralisme. Mais une fois que les institutions sont créées, une fois que l'État est créé, ça Bourdieu l'évoque, eh bien, ça a son effectivité. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, bien sûr que la protection sociale et le droit du travail sont deux énormes piliers de l'État social. En fait, on peut les référer du point de vue de leur genèse à la loi sur les accidents du travail de 1898. Mais enfin, une fois qu'on a dit ça, il faut savoir que les accidents du travail, c'est à peine 2% du budget de la protection sociale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que on peut pas tout ramener à la genèse. Voilà. Ramener tout à la genèse, quelque part, c'est nier l'effectivité du rôle des institutions, de l'État, le fait que bah, ce sont des acteurs à part entière. Mais ça, Bourdieu le dit.
Une dernière question, Christophe Rameau. En quoi est-ce que ce texte, selon vous, fait toujours écho à l'actualité sur l'État, donc les cours donnés par Pierre Bourdieu?
Bah, parce que je pense que la grosse question que nous avons à gérer, en France comme ailleurs, c'est comment on articule privé et public. C'est ça la grosse question, hein. Et donc et donc la question de l'État au sens large, voilà. Et alors mon point de vue, là où il y a peut-être une limite chez Pierre Bourdieu, c'est que je pense qu'il faut articuler les réflexions sur l'État social qu'il évoque finalement, mais avec la question de la démocratie, parce que le fondement politique de l'État social, fondamentalement, c'est la démocratie. Alors c'est évoqué un tout petit peu par la bribe, enfin le moins qu'on puisse dire, c'est que la démocratie, la citoyenneté, c'est vraiment pas au cœur du propos de Pierre Bourdieu.
Merci beaucoup, Christophe Rameau, sur l'État de Pierre Bourdieu, et coédité par Le Seuil et Raison d'agir. Et je renvoie les auditeurs à votre ouvrage, L'État social pour sortir du chaos néolibéral, publié chez Fayard aux éditions Mille et une nuits. Un grand merci.
Entendez-vous l'écho, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi pour une nouvelle série consacrée à l'économie du soin. J'en profite également pour vous annoncer que le prochain Forum France Culture aura lieu mardi prochain dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. Participation, représentation, information, vivons-nous un nouvel âge de la politique? Voilà le thème de ce forum. Et nous y serons à partir de 9h30 mardi pour parler du degré d'inégalité que nos sociétés peuvent supporter. Nous serons en compagnie de Cécile Duflo, Jean-Marc Daniel, Lucas Chancel et Olivier Galland. L'entrée est gratuite, mais il faut s'inscrire sur le site maisondelaradio.fr. On mettra toutes les informations sur la page d'Entendez-vous l'écho. En attendant, vous pouvez bien sûr écouter ou réécouter toutes nos émissions sur franceculture.fr et en podcast, et nous retrouver sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.